Bonjour Chloé.
Bonjour Ziad.
Tu es illustratrice, autrice, peintre, on peut dire les trois.
On peut dire les trois.
Je t'ai rencontrée ici à Panglagar, où il y a le studio de Radio Vassivière à Feltin, et où tu exposes des dessins et des toiles dans le cadre d'une résidence avec les Micheline. On va y revenir, peut-être que tu souhaites dire un mot déjà sur ça, mais on va y revenir peut-être plus longuement.
Oui, tout à fait. Donc j'ai été contactée par les Micheline pour venir faire une résidence. Je leur en suis très reconnaissante.
C'est une association feltinoise qui est spécialisée dans la sérigraphie.
Dans la sérigraphie. J'en avais jamais fait, donc déjà c'était l'occasion d'apprendre une nouvelle technique et donc d'expérimenter autour de la couleur, notamment.
Alors avant de revenir sur cette actualité, on va parler de ton parcours, c'est un bon prétexte. Tu es creusoise d'origine ?
Creusoise d'origine, oui.
Tu es partie un certain temps et tu es revenue en Creuse il y a 4-5 ans, c'est ça ? Tu peux me raconter ?
Donc après, je suis partie à ma majorité, disons, comme tout le monde en Creuse, ou presque.
T'es d'où d'abord, peut-être, pour que les gens te situent géographiquement en Creuse ?
Vers la souterraine.
Vers la souterraine, ok.
Voilà. Et donc notamment, je suis partie dans mon périple à Bruxelles pour faire les beaux-arts là-bas. J'y suis restée 5 ans. Je suis allée au bout du cursus. Donc à Bruxelles, contrairement à la France, on se spécialise d'entrée. Donc dès la première année, je me suis spécialisée en écriture et illustration.
Ouais.
Et voilà. Et donc, diplôme en poche, je suis rentrée directement en Creuse. Voilà.
T'as mis 10 ans, c'est ça, 10 ans en dehors de
ouais,
Creuse.
Vraiment.
T'as commencé
ouais.
tes études et puis t'as fini à Bruxelles avec ces études d'art. On va pas s'étendre dessus, mais dans quel état d'esprit tu étais quand tu es partie? T'étais contente, t'avais envie, t'avais pas très envie. Et qu'est-ce qui a fait que t'es revenue ici?
Je suis revenue ici parce que ça a toujours été une évidence pour moi que je reviendrai. J'avais juste besoin d'une raison de revenir. Voilà. Et donc, commencer mon métier d'illustratrice ici, ça faisait du sens parce qu'au-delà de ça, je restais quand même impliquée dans une association à Fursac qui s'appelle Creuse Toujours, qui monte un festival tous les ans, le Lézard Vert. Et donc, c'est un groupe de personnes avec qui j'ai toujours eu des liens assez forts. Et donc, ça me semblait logique de rentrer pour m'épanouir en tant qu'artiste tout en intégrant de manière plus permanente cette association-là et ce groupe de personnes-là.
C'était, tu dis, il me fallait une raison pour revenir. C'était ça ta raison ou c'était important pour toi de travailler sur le territoire où tu avais grandi ?
Et c'était important, oui. Alors, je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais mon travail... j'ai découvert aux Beaux-Arts que j'avais envie de parler de territoire, de légitimité à l'occuper et de pourquoi on l'occupe. Et donc, comme j'ai toujours été très intimement liée à la Creuse, voilà, ça me paraissait logique d'y revenir parce que j'en avais besoin dans tout mon corps et que je voulais que ça serve ma création.
Et tu t'es installée ou tu as installé un atelier à Bénévent-l'Abbaye ? C'est toujours d'actualité ?
Oui. Ouais. Alors non, ce n'est plus d'actualité. Ah. Donc, c'était mon premier atelier à Bénévent. À la Maison des Patrimoines, c'est un chouette endroit qui a été complètement rénové dans une ancienne abbaye qui est une pépinière d'artistes, si on peut
dire. C'est vers Fursac, hein ?
Vers Fursac, oui. Donc ouais. Ça a été la première opportunité que j'ai eue. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de déménager mon atelier à Fursac. Donc, je l'ai fait parce que ça m'évitait la route, en fait.
Ouais.
Voilà. Tout simplement.
Et donc, tu as ton propre atelier maintenant où tu travailles ?
Et donc, j'ai mon propre atelier, oui.
Alors, on va parler peut-être de ce que tu as fait en tant qu'illustratrice. Tu as sorti deux livres pour le moment, à ma connaissance.
Ouais, oui,
tu confirmes. Le premier, c'est un livre où tu signes à la fois les illustrations, les dessins et le texte. Ça s'appelle « Tant qu'on l'aura sous les pieds », ça date de 2022.
Oui.
C'est une sorte de roman graphique.
C'est un roman
ou un
graphique.
Un poème graphique, c'est ou ça. Un récit graphique, c'est ça ?
Oui, roman graphique, c'est un mot un petit peu fourre-tout où on cale la bande dessinée qui ne rentre pas dans les cases, voilà, dans tous les sens du terme. Voilà.
Et tu disais, je suis revenu en Creuse pour m'intéresser à mon territoire, à la relation au territoire. Et là, tu t'intéresses dans cet ouvrage à un autre territoire qui est plus au sud.
Pourquoi ? Oui, ça parle du Larzac, de ce qui s'est passé au Larzac dans les années 60-70. Donc, la grand-mère de toutes les ZAD françaises, on va dire. Voilà. Ça part d'un moment où disons, les paysans du Larzac, qui étaient à peine une centaine sur le grand plateau du Larzac, donc un nombre assez dérisoire hein, à l'époque, faisaient leur petit train-train quotidien. Et au moment du repas, le soir, ont allumé leur poste de télévision et ont vu en direct au journal télévisé qu'ils allaient être expropriés. Donc ils l'ont appris par le biais du journal télévisé.
Et donc tu racontes cette histoire, enfin tu la racontes pas in extenso, mais tu travailles autour de cette histoire. C'est amusant parce que le texte est assez court, il y a des choses que tu écris toi-même, tu racontes un petit peu ton voyage là-bas. Et tu commences sur une citation de journal télévisé, je vais te la lire. « Pour qui n'a pas l'œil, il n'est guère facile au loin de distinguer les moutons » parmi les pierres. C'est une citation du journal télévisé de 1973.
Oui, ça part d'un postulat assez poétique, finalement. Voilà. Donc ça, c'est la première phrase, en fait. C'est très, très bien d'avoir choisi ça, parce que c'est vraiment la phrase qui a lancé le projet. Parce que, graphiquement, c'est hyper intéressant, déjà, de base. Pour une illustratrice, des moutons qui ressemblent à des pierres dans une espèce de paysage hyper épuré comme ça, voilà. Moi, ça m'a tout de suite parlé en tant qu'illustratrice.
Mais tu dis, c'est la phrase qui a lancé le projet, c'est-à-dire que tu regardais des archives du journal télévisé,
t'es
tombée sur un reportage.
Exactement, sur YouTube, je regardais des archives INA, j'avais besoin d'un sujet, j'avais vu tout sur Larzac, voilà, ça m'intéressait. Je commençais un petit peu à... C'était vraiment au moment où je commençais à comprendre ce dont j'avais envie de parler et de m'étendre. Voilà. Donc je regardais ces archives INA et vraiment des vidéos fabuleuses parce qu'il y a le parler de l'époque, le parler des journalistes de l'époque qui est très poétique, très dans l'emphase comme ça. Voilà. Et donc cette caméra qui se déplace sur le paysage... Et on croit que tout est immobile. Et au moment où le journaliste dit cette phrase, il y a comme un tas de pierres au loin qui se met à bouger. Voilà, et c'était des moutons, en fait.
Je te propose d'écouter une autre archive INA qui date de 1972. On entend d'ailleurs Michel Debré, donc, qui était le ministre qui a lancé toute cette histoire en octobre 1971. Et puis on en parle après.
Le camp militaire du Larzac... C'est pour l'instant une zone de 3000 hectares qui s'étend à l'est de la route nationale 9 Montpellier-Millau sur le domaine du village de la Cavalerie dans l'Aveyron. Le projet d'extension porte sur 14 000 hectares au nord, à l'est et au sud du camp actuel. Partisans et opposants de l'extension s'affrontent, parfois avec violence. Insultes, intimidations, menaces de mort même provoquent la terreur et font taire les tenants de l'agrandissement du camp. Le ministre d'État chargé de la Défense nationale, M. Michel Debré, fait le point sur ce problème et sur les passions qu'il soulève.
Derrière toutes les critiques que vous avez entendues ou que vous entendrez encore, se cache en réalité, une fois de plus, comme occasion, cette thèse démentie par les faits, démentie par la raison, comme quoi les Français pourraient être libres. La France pourrait être un pays gardien de la liberté de ses citoyens sans avoir de défense nationale. Je n'insiste pas. Alors, il y a d'autres passions, qui sont des passions plus justifiées, la passion du terroir, la passion d'une certaine économie. Alors, sur ce point, je crois que les passions ont été excessives. Et cette extension du camp du Larzac, qui sera une extension modérée, non seulement sera très utile à la défense nationale, mais apportera à la région du Larzac et à la région de Millau un apport économique positif. Dès lors, électrification, adduction d'eau, voirie, tout cela devra être amélioré. Et l'amélioration ne sera pas seulement pour les militaires, elle sera pour l'ensemble de la population.
On est toujours avec toi, Chloé Pince. On a écouté cette archive de Michel Debré, donc, qui était bien ministre de la Défense à l'époque. Cette archive, elle date de 1972 et elle parle de la résistance au Larzac pour défendre des terres agricoles que l'armée souhaitait utiliser pour étendre un camp d'entraînement. J'ai vu que tu prenais des notes en écoutant le ministre. Qu'est-ce que tu as noté ou tu faisais des dessins ?
Non, j'ai noté parce que il y a des, enfin c'est un discours qui est tellement intéressant de réécouter parce que on entend un petit peu les mêmes aujourd'hui. Voilà, c'est des discours de politique qui traversent les époques. Voilà,
il a rien quelque chose d'un peu daté puisqu'il dit bon, avant tout, ce sont des antimilitaristes basiques. Et puis c'est vrai, il y a des gens qui défendent des traditions, ouais, un terroir, etc.
Oui, parce
mais
que
c'est très exagéré.
Voilà. Et mais puis il cherche à se mettre tout le monde dans la poche de toute manière en disant ça. Mais par contre, voilà. C'est bien écrit son discours. Voilà, il met quand même en parallèle des passions excessives. Voilà, ouais. Donc le mot excessif et son idée à lui qui serait une extension modérée. Donc,
et puis c'est la passion contre la raison aussi.
Exactement, hein, c'est ça. Et puis il appuie bien sur un vocabulaire très précis de voilà, le camp militaire, ce sera un apport positif pour l'ensemble de la population.
On va avoir l'eau, l'électricité pour voilà, tout le monde, ça. Pas que pour les militaires.
Et du coup, forcément, ouais. Ça vient après avoir évoqué ce terme de passion excessive en parlant des militants, hein, dans le but de les décrédibiliser.
Et il parle du camp comme une certitude. Enfin, il dit pas, il n'utilise pas de conditionnel. Hein. Il y aura, etc. Oui. Il s'est finalement trompé, mais il ne le savait pas à l'époque parce qu'il y a eu une résistance. Et une résistance, tu disais, c'est un peu la mère de toutes les résistances, une résistance pacifique qui était assez inattendue parce qu'on était sur un plateau paysan ou une zone paysanne plutôt de droite, plutôt traditionnelle, avec des familles qui n'avaient pas vocation à lutter pour défendre ces terres.
Non, c'est ça qui était vraiment magique avec cette lutte. On part quand même de paysans du cru qui, à la base, sont très gaullistes, sont très travail, famille, patrie, très religieux aussi, enfin, voilà, qui sont vraiment dans une forme de tradition un peu vieillotte. Voilà. Et qu'il y a eu mai 68 juste avant, et avant qu'ils n'aient besoin de rentrer dans la lutte, ils étaient anti-mai 68, par exemple.
Oui, c'était mai 68, c'est vraiment les antimilitaristes de base auxquels fait référence Michel Debré dans cet entretien. Quoi. C'est caricatural. Et ce n'était pas du tout l'esprit de ces personnes-là.
Pas du tout.
Et voilà, il y a une résistance qui s'est déclenchée. Tu cites un paysan, je ne sais pas si cette citation date de l'époque ou si tu l'as recueillie pendant ton voyage, qui s'appelle Étienne Paloc, donc qui était une des personnes qui était là-bas, qui dit « Le Larzac, on l'a sous les pieds, et tant qu'on l'aura sous les pieds, ils ne nous le prendront pas. » Et toujours une relation, un lien entre donc, les pieds de cette personne, la terre en dessous, et comme si cette personne, le poids de cette personne était suffisant pour qu'on ne puisse pas lui prendre la terre sous les pieds. Quoi.
Oui. La légitimité à occuper un territoire, voilà.
Et donc, il y a eu un premier acte de désobéissance civile. Donc, les personnes qui habitaient là ont décidé, comme pour désobéir, de construire une bergerie, donc sans permis, sans faire les démarches qu'ils auraient peut-être dû faire. Et donc, ils ont décidé de lutter contre une destruction en construisant quelque chose qui n'avait plus vocation à servir, puisque ça n'y aurait plus de moutons sur ce territoire. Ils ont décidé de lutter contre la destruction par la construction.
Exactement. Oui. Alors, ce n'est pas le premier acte de désobéissance civile, mais disons que ça a été le plus fédérateur. Voilà. Ils ont été quand même quelques milliers à construire cette bergerie, qu'il est très intéressant d'aller voir en vrai, d'ailleurs, parce que c'est un bâtiment qui est immense.
La bergerie de la Blaquière.
De la Blaquière, oui, qui est magnifique, avec des pierres dans lesquelles... Enfin, des pierres qui ont été gravées, voilà, par les différentes personnes qui l'ont bâtie. Ouais, donc c'est presque une cathédrale, en fait.
Donc on va pas raconter tout ce que tu racontes dans cet ouvrage, qu'on le citera à nouveau à la fin. Évidemment, j'ai parlé surtout du contenu, mais il y a des dessins, enfin, y a toute une illustration qui accompagne. Il y en a une qui m'a marqué. Je parlais tout à l'heure des moutons qu'on confond avec des pierres. Donc tu décides de décliner en fait le passage d'une pierre à un mouton. Donc tu pars d'une pierre et puis tu lui rajoutes une tête et puis petit à petit donc en 9 dessins, 10 dessins, tu transformes une pierre en mouton, tu joues sur les relations entre le paysage et les êtres vivants, entre les êtres et des relations invisibles, des relations qui sont bien sûr fausses, enfin qui n'existent pas en vrai, mais qui font sens quand même à tes yeux.
Et oui, c'est la magie du dessin. Mais voilà, c'est pas qu'un amusement graphique, ça porte du sens finalement. C'est comme tu disais, le poids de ton corps qui tient bien sur la terre. Voilà, une pierre assez lourde comme ça, c'est indélogeable normalement. Donc voilà, c'est vraiment poursuivre cette idée que les moutons, qui, enfin les brebis, hein, pardon, on dit les moutons, mais, oui. mais on dit les brebis qui sont cette manière d'occuper de l'Arzac, hein, parce qu'à l'époque, bon maintenant il y a du maraîchage, il y a beaucoup de choses qui se font, mais à l'époque c'était surtout des éleveurs de brebis, parce que c'était tout ce qui était possible de faire sur cette terre aride. Voilà, donc c'est vraiment le symbole de la paysannerie pour moi, voilà. Et donc les transformer en pierre, dans le sens les rendre indélogeables.
Tant qu'on l'aura sous les pieds, donc le roman graphique, le récit graphique que tu as signé a été publié aux éditions Côte Côte Côte. C'est un éditeur belge, c'est ça ?
Une éditrice belge.
En 2022, en 2023, chez la même éditrice, tu as publié L'Arme de Rose, où là tu accompagnes un texte de François David, qui est poète ou qui est auteur, c'est ça ?
Qui est auteur jeunesse.
Auteur jeunesse. Et donc, c'est un texte qui est très court. On peut le lire si tu veux, ou tu peux le lire ou je peux le lire, c'est comme tu veux.
Je t'en prie.
Ok. Et donc, ça s'appelle L'Arme de Rose. Et on va retrouver, je pense, dans ce texte, les thèmes qui t'intéressent, j'ai l'impression. Je commence, c'est vraiment très court. Tu avais retenu le conseil de la dame du marché. Une salade a besoin de sentir que tu l'attends. On voit toujours donc cette relation inattendue ou étrange, donc entre une salade et un être vivant qui doit l'attendre pour qu'elle pousse. Ça, c'était mon commentaire. Je continue. Alors, tous les jours, pendant 2-3 semaines, tu l'avais arrosée, la salade, et tu la guettais avec impatience. Mais elle n'avait presque pas poussé. Donc évidemment, je suis en train de lire le texte, mais il y a des illustrations et donc qui accompagnent tout ça, qui accompagnent presque chaque phrase. Et là, mais elle n'avait presque pas poussé. On voit une grande motte de terre énorme qui occupe toute la page et une toute petite salade tout en haut. Tu t'es dit que tu n'avais pas su. Trop voulu, peut-être. Je continue. Des larmes ont coulé depuis tes joues jusqu'à la terre. Et là, ça est suivi par un dessin, on voit la salade de près. Et quelques jours après, tu n'en croyais pas tes yeux. Et là, on arrive et on voit la salade très 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 grande avec une limace qui essaye de l'attaquer. Et c'est la dernière phrase. Elle attendait que tu l'accueilles, que tu l'accueilles. Donc là, il y a un jeu de mots entre l'accueillir, donc là, l'arracher du sol, et l'accueillir, lui dire bienvenue chez soi. Et donc, encore une fois, dans ce texte très court qui raconte qu'une salade, elle ne vient que si tu la veux. Une personne la veut, mais elle ne vient pas. Et finalement, il pleure et ce sont ses larmes qui prouvent à la salade ou qui font pousser la salade. Et il y a cette relation étrange, mais cette relation entre l'humain et la salade.
C'est une relation au vivant. Bon, c'est un petit morceau de poésie, hein, ce livre. C'est une phrase étalée sur une dizaine de pages. Voilà, c'est vraiment petit et un petit morceau de poésie. Ouais. Mais qui est bourré de sens. Voilà. Et ce qui était intéressant de travailler avec François David, c'était de faire des images qui ne soient pas redondantes, donc qui ne répètent pas juste bêtement le texte, mais qui ajoutent du sens. Voilà. Tu as fait référence à l'image dont je voulais parler, donc c'est bien, mais ce moment où le narrateur pense qu'il ne se passe rien, que la salade elle reste toute petite même après 2 semaines et que voilà, il y a une sorte de frustration, est-ce que ça pousse pas, et en fait dans l'image je voulais montrer ça, donc qui ajoute au texte, hein, qui ajoute une autre dimension encore, où on voit effectivement la salade qui est toute petite sur une énorme motte de terre, mais sous la motte de terre on voit qu'il y a déjà un réseau de racines qui est immense, voilà, et que donc en fait ce qu'on voit à l'extérieur est peut-être trompeur par rapport à ce qui se passe en dessous de nos pieds.
J'avais même pas fait attention. Tu vois, merci de l'avoir rappelé. Donc c'est vrai, on voit tout un réseau de racines qui montre que le petit morceau de salade qu'on croit apercevoir, c'est rien par rapport à ce qu'il cache. J'ai remarqué dans les deux livres, je ne sais pas si c'est ton choix ou celui de l'éditrice, que tout est en minuscule. Le titre est en minuscule, il n'y a aucune majuscule. Ton nom, ton prénom sont en minuscule, l'éditeur, etc. C'est fait exprès, c'est un choix, c'est ton choix.
C'est un choix purement esthétique, ouais. Mais je ne sais pas, peut-être... peut-être un rejet de la hiérarchie, même entre les lettres capitales et minuscules, j'en sais rien.
Mais c'est ton choix.
Oui, avec après discussion avec mon éditrice aussi.
Ok, c'est drôle parce qu'en fait, ça m'a fait penser à une... Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, mais avant, je m'intéressais au numérique. Et il y a une chercheuse dans le monde du numérique qui s'appelle Dana Boyd. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'elle. Et donc, elle est connue pour son travail sur la communication sur Internet, sur les jeunes sur Internet, des jeunes qui, c'était il y a 10-15 ans, donc qui sont probablement moins jeunes aujourd'hui, les jeunes qu'elle étudiait. Et donc, elle tenait absolument à ce que Dana et Boyd soient écrits avec des lettres minuscules au début, qui n'est pas de majuscules. Et c'était donc elle avait un parti pris. Elle disait ceci sur ce parti pris. Il y a plusieurs raisons à cela. Certaines sont politiques, d'autres plus personnelles. Alors, première raison. Tout d'abord, Dana lui semble visuellement plus équilibré que Dana. Donc Dana minuscule, plus équilibré que Dana majuscule. Alors là, vous vous retrouvez complètement. Elle trouve ça plus joli, globalement.
Je suis tout à fait d'accord.
Oui, c'est vrai que c'est bizarre toujours les majuscules. On ne sait pas trop où les mettre. Et ça donne presque l'impression de crier si on a trop et si on n'a pas assez. Ça fait comme s'il y avait une autre alphabet. Ensuite, le fait de mettre une majuscule à la première lettre du nom et du prénom, ainsi que celle du premier pronom personnel singulier en anglais, I, lui paraît également très égocentrique. Elle dira alors à ce sujet, alors je suis en train de citer Wikipédia, je suis pas allé très loin, j'ai pensé que l'effort pour minimaliser l'individualisation pouvait commencer chez soi. Et donc, pour elle, le fait de mettre des minuscules partout, c'est évidemment un choix esthétique, mais c'est aussi un choix politique pour insister sur le fait que l'individu, c'est peut-être pas grand-chose par rapport au reste.
D'accord. Bah écoute, tu m'apprends quelque chose. Je savais pas qu'il y avait des gens qui réfléchissaient à ce point-là.
ça fait sens et puis c'est joli. Et puis,
Ouais, en même temps, bien sûr. L'écriture, c'est une graphie comme une autre, comme un dessin. Donc oui, je comprends que...
Et puis le fait que ça fasse sens et que ce soit joli, c'est peut-être lié d'une certaine manière. Ouais. On va faire une petite pause musicale. Alors, j'ai essayé de réfléchir à un morceau qui pourrait accompagner un peu ton regard sur le monde. J'ai pas du tout trouvé quelque chose d'aussi doux et poétique que toi, mais en revanche, je trouve que dans le sens, il y a peut-être quelque chose, probablement pas dans la manière de le dire. Tu connais Aurel San ?
Ouais.
Ouais. Tu connais L'odeur de l'essence ?
Peut-être si je l'écoute.
Ok, bah tu vas écouter, puis surtout faut écouter les paroles. Tu peux mettre le casque si tu veux. Faut écouter les paroles parce que je trouve que c'est un des résumés les plus forts du monde dans lequel on vit aujourd'hui.
Nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. Et à leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.
L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique.
Paris. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connasse hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens. Comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet. Mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler. Sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière. Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreux se radicalisent. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions. Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est. Donc on est lâche, on se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
On est toujours avec toi, Chloé Pince. On a écouté Aurel San, L'odeur de l'essence. Ça y est, j'ai compris pourquoi j'ai pensé à ce morceau. Puisqu'il parle des moutons à un moment qui cherche un leader charismatique. T'as pris des notes encore? Non. Oui.
Oui. Oui. Parce que j'ai peur d'oublier après. Ça va très très vite en plus.
Oui, il va très très vite. Ouais. C'est ce que j'aime ce morceau parce que je trouve il parle de vraiment tellement de choses très très vite et il n'y a pas de débat finalement. Il le dit d'ailleurs que tout est débat et que finalement il n'y a plus aucune idée qui ressort. Et je trouve que c'est bien que dans l'art il n'y ait pas de débat, qu'on puisse nous passer un message et qu'il n'y ait pas besoin de discuter. Mmh. Voilà, et que ce soit bah, cet art-là, la chanson, ou le dessin, ou la poésie, ou les textes, ça fait du bien, quoi. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as noté, du coup?
J'ai noté une partie qui m'a vachement touchée, parce que bah, là, il résume pas mal la situation de tout ce qui va pas. Mais notamment, quand il dit que tout est réac et que le monde devient susceptible... Il n'y a pas de solution proposée, mais qu'il y a beaucoup de place accordée à la critique, quoi. Et que tout est très, 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 très sensible. Voilà.
Ouais.
Je trouve que c'est un peu le nœud du problème qu'il y a entre les gens en ce moment. Voilà. Cette sensibilité-là, qui empêche qu'on se parle.
On va parler d'un problème, justement.
Ouais.
tu es à la gare en ce moment pour une exposition, une toute petite exposition très courte qui est liée à une résidence que tu fais avec les Michelines. Donc sur les murs de Pangue-la-Gare à Feltin, on peut voir des pages extraites d'un cahier de recherche, d'un cahier de croquis, c'est ça? Oui, où on voit des animaux surtout, des routes, des arbres, des personnages en orange. Quelques textes, il y a celui-là, cette phrase qui m'a marqué, où tu écris, je ne sais pas si c'est de toi ou si c'est une citation, ce n'est pas précisé. « Il n'est pas de mode de vie humain qui ne déploie autour de lui un certain degré de mort et de destruction sur le milieu qui l'environne. » Donc pour exister, il faut détruire, c'est ça? Ça vient de toi?
Oui, et ben c'est pas pour résister. Oui, pour exister, il faut détruire, justement. Donc évidemment, cette phrase, elle se place dans un contexte d'un livre beaucoup plus développé de Charles Stepanov. Je pense que c'est lui. Oui, c'est Charles Stepanov qui a écrit ça dans son livre L'animal et la mort. Voilà. En fait, ça part de l'idée que de toute manière, quoi qu'on fasse, quoi qu'on choisisse comme mode de vie. De la plus respectueuse à la plus destructrice, on va avoir un impact sur ce qui nous environne. Voilà. Mmh. Donc le tout est de choisir comment. Comment on impacte. Voilà. Mais puis... il faut pas se dire qu'on va avoir un mode de vie qui ne va pas laisser de traces. C'est faux.
Et puis peut-être d'assumer, ou en tout cas d'être conscient de son impact, parce que peut-être les choses les plus impactantes sont invisibles et les choses les moins impactantes sont très critiquées. Mmh. Tu vois où je veux en venir ?
Oui. Oui.
Parce que j'ai dit qu'on entrait peut-être dans du débat ou en tout cas dans quelque chose de plus polémique. Ton expo à la gare, elle concerne ton travail actuel qui a pour thème les chasseurs.
Oui.
Et qui n'est pas un réquisitoire contre la chasse. C'est vraiment un travail que tu poursuis depuis presque 3 ans. Tu peux nous raconter d'abord d'où vient ton idée de travailler sur la chasse ?
Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début où je suis revenue m'installer en Creuse. J'ai bouclé pendant un an après mon projet sur le Larzac, donc j'étais occupée à ça. Mais il fallait que je rebondisse sur un autre sujet hein, pour suivre le Larzac. Et en fait, ça correspond à ma vie intime, on va dire, où j'étais beaucoup au bar, on va dire.
Voilà, au bar. La vérité, voilà. Enfin.
Et on a un bar à Fursac qui est formidable, qui s'appelle le Balto, qui est un lieu magique où tout le monde se rencontre sans clivage ni esclandre. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment toute couche de population. Voilà, donc... Je me suis mise à beaucoup bavarder avec un chasseur, notamment. Voilà, il y en avait d'autres, mais il y en avait un avec qui j'aimais particulièrement discuter. Voilà, on s'entendait bien et qu'on débattait. Moi, je partais plutôt d'un postulat anti, entre très gros guillemets. Voilà,
anti-chasse.
Anti-chasse, voilà. Mais j'avais jamais vraiment réfléchi à la question. Je pense que c'était un petit peu pour faire comme tout le monde autour de moi. Voilà, enfin... en me disant « Ah oui, c'est vrai, c'est horrible. Ah oui, ils nous embêtent. » Voilà, donc autant dire que j'avais la tête pleine de clichés. J'avais des idées très clichés, voilà. Et en fait, en parlant avec ce monsieur-là, j'ai eu très, très, très envie de m'y intéresser un peu plus. En plus de ça, dans le même temps, j'ai appris à tanner des peaux, voilà. Donc j'étais aussi très occupée à apprendre à tanner et donc j'allais...
Pourquoi tanner des peaux ?
Pareil, j'ai pas vraiment d'explication à ça, ça me fascine simplement, depuis que je suis toute petite.
Donc
voilà.
Tanner, c'est transformer une peau
c'est
récemment...
C'est conserver une peau. Ouais, faire en sorte qu'elle dure dans le temps. Donc c'est tout un procédé de bain, d'étirage, voilà, de conservation.
Et donc tu tannes des peaux depuis quelques années ?
Depuis 4 ans maintenant.
Que tu collectionnes du...
Que j'empile chez moi, oui. Un jour j'en ferai quelque chose, mais j'en offre aussi, voilà. Bon.
Donc, donc en parallèle, tu apprenais à tanner et ça a fait une connexion avec la chasse.
Et ça a fait une connexion avec les chasseurs parce que je me suis mise à leur demander de me garder les peaux. Et comme eux, ils n'ont pas le temps de faire un travail propre, donc je me retrouvais souvent avec des peaux un peu lacérées, un peu trouées, qui étaient difficiles à travailler. Donc je me suis dit que j'allais y aller moi-même. Voilà. J'allais les suivre à la chasse et que j'allais récupérer moi-même les peaux, donc m'occuper du dépeçage. Voilà.
Ok.
C'est pas très ragoûtant. Mais
non, non. Bah, donc, voilà.
Donc c'était un mélange d'intérêt pratique pour cette activité de tannage que j'avais et aussi sur le terrain des idées aussi. Voilà, c'était le mélange des deux. Donc j'ai fini par accompagner cet ami chasseur-là lors des battues organisées par le groupe de chasse de mon village. Donc j'ai rencontré ce groupe de chasse-là. Et la première fois que j'ai poussé la porte de la cabane de chasse, j'étais très, très tremblotante hein, parce que je ne savais pas ce que j'allais trouver derrière. Je m'attendais à ce qu'on me fasse des réflexions sur le fait que j'étais une femme et peut-être du rejet de leur part aussi. Surtout que je suis très très vite arrivée avec un appareil photo parce que j'avais envie de documenter tout
ça. Tu savais déjà que tu allais travailler dessus ou...
Je pense que j'avais très envie de m'y mettre. Ouais.
Donc appareil photo.
Appareil photo, carnet de notes, voilà. Donc les premiers temps, ils me regardaient un peu avec suspicion. Ils ne savaient pas pourquoi. Enfin, j'essaie de leur expliquer, mais voilà, le monde du livre, c'est quand même assez éloigné d'eux. Donc eux, ils pensaient simplement que... Enfin, ils se méfiaient sur le fait que je les prenne en photo et que je les diffuse sur les réseaux sociaux. Voilà, que je les affiche. Ils avaient très peur de ça. Donc ça a pris un petit moment à ce qu'on s'apprivoise, mais ça a été assez vite parce que, bon, voilà, je faisais les battues avec eux. Je restais après à la cabane pour manger, boire. Voilà, donc ça créait des liens assez rapides.
Et qu'est-ce que tu es encore en train de travailler dessus, mais qu'est-ce que ça t'a enseigné, cette relation avec ce groupe de chasse, ces expériences de chasse toi-même, de dépeçage aussi des animaux qui ont été abattus? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu as...
Il est vraiment important de souligner que ce groupe de chasse-là, auquel j'ai pris part, n'est pas représentatif de tous les groupes de chasse, on va dire. Voilà, c'est... En fait, j'ai découvert que c'était un monde très hétérogène, dans le sens...
Eux qui te l'ont expliqué ou tu as rencontré
même
d'autres
eux,
groupes?
Mais même moi, en rencontrant d'autres mondes, en parlant, en étant un peu obsédée par ça pendant longtemps, finalement, et en me renseignant beaucoup. Même eux, donc eux, c'est plutôt des petits vieux hein, voilà, qui sont assez tranquilles, finalement, et qui n'ont pas des gros moyens et qui, du coup... Voilà, c'est plus un prétexte pour se promener, être ensemble, mais c'est pas des viandards, voilà. Donc eux, ils parlent beaucoup des viandards, ça va être d'autres groupes un peu plus dans la performance, dans l'agressivité, ce genre de groupe qui pose problème et qui fait qu'on déteste les chasseurs aujourd'hui.
Voilà. Donc ça, c'est la première chose que tu as apprise. Qu'est-ce que tu as appris d'autre ou qu'est-ce que tu as découvert d'autre?
J'ai découvert que tout un monde, en fait, c'est vraiment c'est tout un monde. Alors, il y a la mise à mort, c'est une espèce de climax, on va dire. Mais autour de ce moment-là, il se passe énormément de temps à juste marcher, attendre, s'ennuyer un peu, se placer, voilà, monter dans la voiture, faire le tour des bosquets. Un rapport très touchant aux chiens. Aussi, voilà. Et le chasseur et son chien, c'est vraiment quelque chose de très, très touchant à observer. Et le travail des chiens aussi, voilà.
Et les dessins qu'on voit à la gare, donc de ces animaux, j'ai même vu un fauteuil roulant, je ne sais pas si ça a un rapport. Tous ces dessins-là, c'est ton travail de recherche visuelle? C'est ce qu'on va retrouver dans ce futur album potentiel, je ne sais pas où tu en es. Les phrases aussi que tu notes, ou les citations, tout ça, c'est ce que tu es en train de faire en même temps?
C'est ça, c'est un extrait en fait de... C'est un extrait sous forme de feuilles volantes de ce à quoi je suis occupée en ce moment. Voilà.
Et tu as arraché des feuilles de ton carnet, parce qu'on voit on voit que c'est des feuilles qui ont été arrachées, ou tu les as reproduites?
Oui, mais
ou...
non, de toute manière, elles étaient arrachées parce que je scanne au fur et à mesure. Voilà, okay. Je sauve tout de suite, comme je ne suis pas une personne très, très soigneuse. En général, une fois que j'ai dessiné n'importe quoi, ça passe direct au scanner, et comme ça, c'est sauvé sur l'ordinateur.
Dans le cadre de ce travail, tu as obtenu une sorte de bourse, c'est ça, qui t'a permis d'aller au Canada?
Oui, ouais, ouais. Oui, bien renseigné.
C'est pas très compliqué.
Oui, du coup, pour ce projet-là, j'ai monté un dossier et j'ai obtenu d'aller au Canada. Ouais, une résidence de 2 mois.
Croisée Québec-Nouvelle-Aquitaine.
Oui, ouais. Exactement, pendant deux mois.
Et alors?
Ah là là, le Québec, c'est... Ouais, j'ai beaucoup appris au Québec aussi parce que, en fait, très vite, comme je suis arrivée au début du printemps, j'ai passé beaucoup de temps à faire du stop sur les routes québécoises et donc à rencontrer toutes sortes de gens. Voilà. Le stop, c'est super pour ça. Et c'est vrai qu'en parlant de ce projet avec les gens, j'ai eu une réponse assez unanime. Donc pareil, de la part de quasi la totalité de la population, hein, que ce soit les autochtones ou les Québécois ou qu'est-ce. qui est de « Ah bon, mais il y a besoin de faire un projet comme ça en France ?» Parce que pour eux, la chasse, c'est même pas un sujet de débat, quoi. Enfin, pour la plupart, en tout cas. Voilà. Mais je pense savoir pourquoi. Je pense savoir pourquoi. Et justement, c'est une question de territoire. Et là, du coup, c'est très intéressant pour moi. En France, je pense que une des grosses problématiques, c'est un problème de place. Voilà. Il y a quand même un gros conflit entre randonneurs et chasseurs, par exemple, au-delà du conflit juste éthique. On ne peut pas randonner dans une forêt quand il y a la chasse. C'est trop risqué.
On ne peut pas se promener,
c'est trop risqué. Il y a beaucoup de faits divers, il y a beaucoup de balles perdues, etc. Au Canada, au Québec, en tout cas, il n'y a pas ce problème-là parce qu'il y a tellement de place, tellement... qu'on peut ne croiser personne pendant une semaine entière quand on est dans la forêt. Voilà.
Tu as donné une interview sur ton voyage au Québec, au Canada. Je vais te citer, puisque ça va dans le sens de ce que tu es en train de dire. « Sur les routes du Québec, il m'est arrivé de faire un écart sur le côté, de quitter le bitume pour partir sur les sentiers de montagne. Dans ces moments-là, je savais que je m'enfonçais dans des endroits bien plus puissants que moi, avec des entités qui pouvaient représenter un danger, comme les ours ou encore les incendies, sur la fin de mon voyage. » Mais en même temps, j'éprouvais enfin une sensation nouvelle que je n'ai jamais eue en randonnant en France, où l'on croise toujours des villages et des gens. Mm. Donc ça correspond à ce que tu es en train de raconter.
Ouais.
T'as l'immensité.
Ouais, un rapport au sauvage qui est quand même différent de nous. Je pense que plus d'humilité nous sommes des animaux qui, une fois lâchés dans la forêt, on n'a pas grand-chose pour nous. Hein. Voilà. Et ça, on le ressent très fort là-bas. Chose qu'on ne ressent pas tellement ici parce qu'on n'est jamais vraiment perdu ici. Il y a toujours un village, il y a toujours une route, il y a toujours...
En regard de ton carnet de croquis que tu as arraché et exposé à la gare en partie, il y a des toiles, je ne sais plus s'il y en a 5 ou 6, en tout cas il y en a des toutes petites, 4 toutes petites ou 5 toutes petites, et une plus grande, et qui n'ont absolument rien à voir avec le reste, donc c'est des toiles peintes, parce que ça représente, toutes représentent une route. Alors, je ne sais pas si c'est la route du Québec. Et c'est très graphique, alors que tes dessins sont très réalistes. Là, c'est vraiment très graphique. C'est des aplats de couleurs et des couleurs qui sont plus flashy, plus fluo que dans la réalité. Mais ça frappe surtout de loin quand on arrive. Il y a le tableau de taille moyenne qui est plus grand que les autres, avec de la route qui est en orange ou en gris. Enfin, il y a un orange qui frappe tout de suite le regard. C'est quoi cette route ? C'est quoi ?
Ouais, il y a vraiment une différence d'intention entre ces deux modes de faire. Avec le crayon, je suis dans l'urgence de raconter quelque chose, de développer une idée. Avec la peinture, on est plus dans l'esthétique. Voilà, c'est voué à être exposé. C'est moi qui m'éclate avec des aplats et des couleurs. Voilà. Et la route rouge, je pense pour... Bien marquer cette différence entre nos routes bitumées qui sont le confort moderne, hein, finalement, qui fait qu'on ne se perd pas dans la nature hostile, voilà, qui les routes nous ramènent toujours à la maison. Voilà, donc ça se démarque avec ce qu'il y a sur le côté.
Toujours dans cette interview, on va finir un peu sur cette idée, cette interview que tu donnes au site de l'ALCA, c'est ça, donc qui est à l'origine de la résidence dont tu as bénéficié. Donc c'est une interview assez fouillée où tu racontes ton voyage au Canada. Tu dis ceci, qui correspond un peu à ce que tu es en train de dire. « Il m'est parfois arrivé de me perdre, puis de retrouver ma route en suivant les vieux sentiers qui redevenaient des chemins, puis des routes en terre, puis des routes bitumées. C'est un peu comme un ruisseau qui devient rivière, qui devient fleuve, puis se jette dans la mer. J'ai compris dans ma chair que les sentiers sont le premier guide de l'homme à travers la nature sauvage pour lui permettre de retrouver sa maison. » On retrouve dans cette citation un peu ce qu'on retrouve dans la plupart des choses que tu fais. C'est une forme de relation cachée. Les pierres qui sont des moutons, les larmes qui font grandir la salade, les pieds qui tiennent le larzac. Et là, on voit presque les sabots de l'animal sauvage qui passent quelque part et puis qui deviennent une autoroute à l'arrivée.
Oui, parce que c'est même pas que pour les humains. Ça, les animaux font pareil. D'ailleurs, à la chasse, on appelle ça des coulées. Voilà. Donc, les animaux font des coulées qui sont petites et puis qui se rejoignent. Voilà, c'est...
À quoi ça sert pour toi de creuser, de rechercher ces relations, de les exposer, que ce soit dans les textes ou dans les dessins ?
Par rapport à la chanson d'Orelsan, cette détestation pour le cliché, la rumeur, la critique facile. Moi j'aime bien creuser et là c'est un sujet en l'occurrence qui est générateur de beaucoup de frictions et beaucoup de clivages, donc c'est d'autant plus
mais lui Orelsan ou beaucoup de gens on s'exprime aussi avec colère. Toi, c'est vraiment des petits traits, des petits mots, des petites phrases qui à chaque fois font réfléchir.
Je tiens à ne pas asséner un message, à ne pas marteler un message. Je crois qu'un message rentre toujours mieux quand il est subtil. Voilà. Donc le gros de mon travail, c'est d'arriver à cette subtilité-là, parce que je pense que dans la vie, je suis plus impulsive. Voilà. Et le travail de l'écriture,
au balto notamment.
Ouais. Et du coup, le travail de l'écriture et du dessin me permet de me canaliser, je pense quelque part, et d'arriver à une forme de justesse déjà en moi, et ensuite la volonté de que d'autres la lisent.
Voilà. Merci Chloé.
Chloé
Pince, pour les personnes qui veulent faire des recherches, peut-être retrouver tes livres. Le premier s'appelle « Tant qu'on l'aura sous les pieds », c'est aux éditions Côte. Et le second s'appelle « L'arme de rosée », il illustre un texte de François David, toujours aux éditions Côte. Le suivant, il arrive quand ?
Je ne sais pas du tout.
Tu sais pas du tout ?
Je ne sais pas.
Ça
avance, oui, ça avance. J'ai une maquette faite que j'ai envoyée à mon éditrice. Et ça va être très compliqué, je pense, parce que c'est un sujet qui est très sensible.
C'est un sujet clivant.
C'est un sujet très clivant. Et je pense que pour elle, c'est peut-être un peu une prise de risque aussi. Voilà. Donc. Il va falloir que je tourne les choses d'une certaine manière et c'est ça qui va me prendre le temps qu'il faut, en fait. Mais voilà, j'espère l'année prochaine.
Ok, et une exposition, donc en ce moment, à la gare à Pont-Gaffeltin, en ce moment, au moment où on parle, probablement au moment où vous écoutez, c'est jusqu'au 14 février, c'est ça ?
C'est ça.
Et donc, on peut voir des dessins et des toiles. Autre chose, non ? C'est bon ?
C'est bon.
Tu veux qu'on se quitte avec un morceau que tu choisis ? Non ?
Que je choisis ?
Ouais, vas-y.
J'ai pas d'idée.
Cherche.
Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? Ça, c'est toujours quand on demande en plus que...
Ouais, je t'ai prise complètement au dépourvu.
Que les choses ne viennent pas. Je réfléchis le temps qu'il faut, ce sera coupé au montage.
Ouais, bien sûr.
Ok. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? Putain. Ah si, je sais. Mais c'est pas grave si ça n'a rien à voir avec le
pas
sujet.
Pas grave, non, grave. Non, okay. Bien sûr, c'est le principe de choisir.
Ok. Alors, bon, c'est un morceau que j'écoute énormément en ce moment qui s'appelle Radio Foot. C'est la première fois que je passe à la radio, donc c'est le premier truc qui m'est arrivé. Radio Foot de Petit Petit.
Yes, je l'ai. Donc, tu veux dire un truc dessus avant qu'on se quitte ? Sinon, on dit au revoir.
C'est pour se quitter tout en douceur. C'est une amie qui s'appelle Violette et qui a une voix extraordinaire.
Et j'en profite d'ailleurs, tu as parlé d'amis, pour remercier Paco qui m'a prêté, Paco de la librairie itinérante La Limousine, qui m'a prêté les livres en urgence, pour pouvoir les parcourir avant de te rencontrer. À bientôt, merci.
Merci Ziad.
Donc Radio Foot, Petit Petit et Violette Legrand.